La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message.
Moi, j'ai entendu dire qu'on avait encore découvert un anneau autour de Saturne. Pourquoi vous l'avez pas vu avant ?
Celui qui sait, c'est André Brahic, astrophysicien. Allô, André Brahic ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'a découvert le télescope Spitzer ?
Ce qu'a fait ce télescope, c'est de trouver autour de Saturne de la poussière. Et cette poussière forme une espèce d'anneau, de tore, disons, autour de Saturne, mais très loin de la planète. Pas du tout à l'endroit où sont les anneaux traditionnels que nous connaissons, que nous voyons avec une paire de jumelles, mais bien au-delà des satellites, c'est-à-dire au niveau de l'orbite de Phébé, qui est un des satellites les plus lointains de Saturne.
Mais cet anneau, qu'est-ce qu'il a de si particulier par rapport aux autres ?
Cet anneau de poussière est extrêmement fin, est extrêmement ténu. Il n'est pas question de le voir avec un télescope normal en lumière optique. Et même si moi je vous envoyais autour de Saturne et que je vous assois dans une chaise au milieu de cet anneau, eh bien vous ne diriez rien. Tellement les poussières sont éloignées les unes des autres. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous êtes dans une pièce l'été, que le rayon de soleil rentre dans la pièce, il y a évidemment de la poussière en suspension, vous ne la voyez pas, et si par hasard vous regardez un petit peu à contre-jour, vous voyez des petits grains de poussière qui flottent dans la lumière parce que vous êtes bien placé. Donc c'est quelque chose de très fin, très ténu, mais très important.
Mais comment se fait-il que la sonde européenne Cassini, qui gravite autour de Saturne depuis de nombreuses années, n'ait pas vu cet anneau plus tôt ?
Souvent, un télescope ou un instrument spatial est un peu comme une auberge espagnole, c'est-à-dire qu'il fait ce que vous lui demandez. En d'autres termes, on n'a pas vraiment cherché de ce côté-là, et la mission Cassini est relativement proche de la planète. Et avec nos instruments, nous regardons plutôt vers la planète, vers les satellites, vers l'intérieur, là où il y a beaucoup de choses. Et on regarde relativement peu vers l'extérieur. Un deuxième point, c'est que cet anneau est tellement ténu qu'on est à la limite de résolution.
Ce que j'aimerais comprendre, ce sont les interactions dont il est question entre cet anneau et certains satellites de Saturne.
Il y a plus de 300 ans, nous étions là en 1675, 80 et quelques, le premier directeur de l'Observatoire de Paris, qui s'appelait Jean-Dominique Cassini, avait pointé sa lunette vers Saturne et avait découvert un satellite qui s'appelle JAPET. Et ce satellite, on ne le voyait que d'un côté de la planète. On le voyait à droite, on ne le voyait pas à gauche. Alors, comment comprendre cela ? Jean-Dominique Cassini, qui était un très bon scientifique, qui a immédiatement compris que JAPET devait tourner autour de Saturne comme la Lune autour de la Terre, c'est-à-dire en présentant la même face à la planète, et que ce satellite devait être un côté très blanc et un autre côté très noir. Et donc nous voyions le satellite d'un côté de la planète quand c'est le côté blanc qui nous fait face, et on ne le voyait pas de l'autre côté quand c'est le côté noir. C'est une hypothèse qu'a émis Jean-Dominique Cassini en 1675, et qui a été vérifiée par la sonde Cassini de nombreuses années plus tard, dans les années 2000. Il y a effectivement un satellite qui a un côté tout noir, plus noir que le noir je dirais, et un côté tout blanc, plus blanc que le blanc. Nous ne comprenions pas pourquoi cette dissymétrie. Eh bien, cet anneau extérieur apporte une partie de la réponse. Cet anneau-là, qui est fait de débris qui sont à cet endroit-là ramassés, interagissent avec les satellites en les bombardant. Du sol des satellites peuvent s'échapper aussi des poussières, la gravité est très faible, les collisions avec les météores, évidemment, peuvent arracher du matériau. Et donc là, on voit qu'il y a des interactions très complexes d'un satellite à l'autre, et que cet anneau représente en quelque sorte un médiateur entre ces satellites, et c'est pour ça que c'est tellement important. Ça nous permet de comprendre des phénomènes que nous n'avions pas compris jusqu'à présent.
Mais alors, au final, en quoi cette découverte est-elle importante ?
Les anneaux de Saturne, de cette manière, c'est vraiment un des plus vieux sujets de la science et de l'astrophysique. Nous nous rendons compte aujourd'hui que c'est un laboratoire qui nous décrit tous les systèmes plats dans l'univers. Or, l'univers est rempli de systèmes plats. Notre système solaire est un système plat où des planètes se sont formées à partir d'un disque. Une galaxie est un système plat où un disque de matière est parcouru par des ondes spirales. Un trou noir est entouré par un système plat, on appelle ça un disque d'accrétion. En d'autres termes, c'est un laboratoire à portée de la main, puisqu'on peut y envoyer des satellites, qui nous permet d'étudier, de comprendre un tas de phénomènes. Et je vais en citer un seulement, qui est un grand problème actuellement de physique, c'est le confinement. Vous savez, confiner du matériau, c'est la grande question que se posent les physiciens en ce moment. On voudrait confiner du matériau avec le champ magnétique pour enfin résoudre le problème de l'énergie. Le fameux projet ITER qui est dans le sud de la France. Eh bien, nous assistons en direct autour de Saturne à des phénomènes de confinement, cette fois-ci non pas par le champ magnétique, mais par la gravitation et par les satellites qui sont autour. Eh bien, les équations qui décrivent ces phénomènes de confinement, qu'il s'agisse de la recherche de l'énergie ou qu'il s'agisse des anneaux, ce sont les mêmes équations. On appelle ça une équation de Fokker-Planck, du nom des physiciens qui ont trouvé cette équation. En un mot, la physique est universelle, la science est universelle, et la découverte ne se fait pas toujours à l'endroit où on l'attend.
Merci, André Brahic.
Ah, merci. C'est beaucoup plus clair comme ça.
tous les sens.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens. Lumière. 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 Il n'est pas au bout de ses peines, celui qui, sur les mystères de l'univers, veut faire toute la lumière. Surtout s'il ne croit que ce qu'il voit. Car ce que nos yeux peuvent voir, ça n'est pas toute la lumière, loin de là. De part et d'autre des couleurs de l'arc-en-ciel, la lumière, indifférente à l'étroitesse de notre vue, poursuit imperturbablement sa route. En dessous du rouge, il y a encore de la couleur, même si nous ne pouvons la voir. C'est l'infrarouge, l'humble lumière de la poussière et du froid. Pourtant, c'est grâce à cette modeste lumière infrarouge que le satellite Herschel, perçant les nuages de gaz et de poussière où règne la froidure, peut aujourd'hui observer les étoiles dans leur prime jeunesse. Sitôt nées, les étoiles, ces ingrates, dispersent le cocon de poussière et de gaz qui les a vues naître. Pire, elles prennent son parfait contre-pied. Délaissant le timide infrarouge, c'est dans l'ultraviolet qu'elles se mettent à flamber. Ici encore, nos yeux n'y voient que du feu. Même si notre peau, elle, sous le malicieux clin d'œil ultraviolet du soleil, ne peut s'empêcher de piquer un phare. Heureusement, les satellites comme SOHO ou STEREO peuvent voir le rayonnement ultraviolet du soleil. Sans eux, nous ne comprendrions rien aux colères de notre étoile. Car notre soleil est une étoile, simplement plus proche de la Terre que celle qui constelle nos nuits. La lumière qui provient de ces lointaines étoiles, célestes messagères, a beaucoup de choses à nous dire. Elle porte en elle la trace de ce qu'il a produit là-bas, à des dizaines, voire des centaines d'années-lumière. Pour comprendre ce que la lumière des étoiles a à nous dire, il faut obtenir son spectre. Rassurez-vous, ces spectres ne sont pas des fantômes. Pour le physicien, un spectre, c'est tout simplement une bande où sont étalées les différentes couleurs composant une source de lumière. L'arc-en-ciel, ça n'est rien d'autre que le spectre de la lumière solaire, décomposé par les gouttes de pluie. Dans ces spectres, des rayures sombres apparaissent, selon les éléments chimiques qui se trouvent présents dans la source lumineuse. C'est comme cela que les physiciens de la fin du XIXe siècle ont compris que les étoiles n'étaient pas si différentes de notre Soleil. Dans Le Petit Prince, Saint-Exupéry nous avait bien prévenu. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors dans ces conditions, à quoi bon contempler l'univers? Peut-être simplement pour le plaisir de savoir que tout ce qui échappe à nos yeux aujourd'hui, grâce aux satellites, nous pouvons quand même le comprendre.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Darwin et après. En cette fin d'année 2009, le monde des sciences célèbre deux anniversaires. Celui des premières observations du ciel à l'aide d'une lunette astronomique menée par Galilée il y a 4 siècles. Celui de la publication par Charles Darwin de son livre « De l'origine des espèces », un livre qui a posé les bases de la théorie de l'évolution du vivant et fondé la biologie moderne. Je ne crois pas qu'un début de rapprochement ait été fait entre ces deux célébrations. Et pourtant, j'aime à penser que le prochain grand événement en biologie, digne d'être fêté avec autant d'ampleur, pourrait être la découverte d'une vie extraterrestre, autrement dit, de formes vivantes ailleurs que sur notre planète. C'est là une simple hypothèse, bien évidemment, qu'un astronome anglais avait d'ailleurs avancé avant moi. En souvenir du Beagle, le navire à bord duquel Darwin avait accompli son tour du monde dans les années 1830, le professeur Colin Pillinger avait appelé Beagle 2, Beagle 2, l'engin spatial qui devait se poser le 25 décembre 2003 à la surface de la planète Mars pour tenter d'y déceler des traces de vie. L'opération avait malheureusement échoué sans qu'aucune explication n'ait pu être donnée à cet échec. Pourquoi la découverte d'une vie extraterrestre constituerait-elle un événement important dans l'histoire des sciences ? Un événement qui puisse être comparé à celui de l'élaboration par Darwin de sa théorie de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Si nous trouvions ailleurs que sur notre planète une autre biosphère, d'autres formes de vie, si nous pouvions les comparer, nous serions peut-être capables d'en savoir davantage sur les rôles respectifs du hasard et de la nécessité, de la contingence et du déterminisme dans l'apparition, le développement et la disparition de la vie. Nous pourrions en effet comparer, distinguer, rapprocher. Et sans doute, serions-nous surpris de découvrir des structures, des processus totalement inimaginables pour nous aujourd'hui. Nous en avons d'ailleurs un avant-goût dans l'étude récente des extrémophiles, ces êtres qui vivent dans des milieux tellement extrêmes qu'ils avaient été considérés comme totalement désertiques, incapables d'accueillir la vie. Si un jour, une vie extraterrestre était découverte, Darwin, ses successeurs et leurs théories scientifiques ne devraient pas pour autant être oubliés. Ils seraient sans doute confirmés dans certaines de leurs intuitions, dépassés dans d'autres. Tel est le sort, l'histoire des sciences. Célébrer de tels anniversaires n'invite donc pas seulement à reconnaître le génie de ceux et de celles qui nous ont précédés, mais aussi à reconnaître combien est grande notre ignorance. Les mers inconnues, les horizons encore à franchir, ne manquent donc pas pour ceux qui embarqueront sur les beagles du futur. Tant mieux, n'est-ce pas ?
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre ? C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain ?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est
nous. Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
oui,
qui ?
Non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui. Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Ce serait peut-être temps d'entrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.